Nous sommes dans le samedi saint. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur comment le Seigneur est descendu aux enfers, sur comment la Vierge Marie a vécu ce temps d'attente avec les apôtres. L'Écriture nous dit certains éléments, ils étaient enfermés, ils avaient peur. Mais comme d'habitude, notre regard est tourné en ce samedi sur la Vierge Marie, et de fait, comme d'habitude, il y a peu d'éléments dans l'Évangile qui nous parlent véritablement de ce qui va se passer. Et c'est bien, d'une certaine manière, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est ainsi. Et puis c'est bien parce que ça nous fait rentrer dans la spiritualité de ce jour qui est le grand silence. L'Église est dans un silence d'espérance, un peu comme la nature qui, dans le silence, germe. La graine est tombée dans la terre et dans le silence, elle germe, elle va porter son fruit. Le Seigneur a été mis au tombeau, préservé de la corruption, et il va donner son fruit. Le maître de la vie va ressusciter. Et donc, il y a quelque chose qui se fait à notre insu. Un travail de Dieu qui est fait en notre insu, et nous qui ne voyons rien, à l'image de la Vierge Marie, nous sommes invités à espérer dans le silence, à rester dans le silence auprès de Marie. Alors, nous allons voir un petit peu différents points, parce que cette journée est dense, elle est à la fois, nous allons parler du Christ ressuscité, nous préparer à la veillée pascale, nous allons parler des enfers, ce qu'il est en train de vivre, que l'Église nous invite à vivre, et nous allons aussi parler des fins dernières. Tout d'abord, parlons un peu du Christ qui descend aux enfers et non pas à l'enfer. La distinction est importante. Le Seigneur ne descend pas dans l'enfer, mais aux enfers. Distinction, l'enfer est le lieu où la présence de grâce de Dieu n'est plus là. C'est un lieu où l'être spirituel, homme ou ange, peut librement décider de ne pas vivre avec son Créateur pour l'éternité. Ce lieu-là, les anges déchus, qui se sont eux-mêmes séparés de Dieu, l'ont instantanément choisi parce qu'ils ont une connaissance directe, infuse, et peuvent faire ce choix. Du coup, ces anges sont devenus des démons. Dieu les aime toujours et il les maintient dans l'existence, dans l'être. Mais il n'y a plus de grâce, ce qui fait que l'enfer, ce n'est pas la barbecue partie, comme on a représentation au Moyen-Âge, mais c'est effectivement le lieu où tout l'être est incliné vers le bien et il ne pourra jamais se réaliser parce qu'il est privé de la grâce. Donc c'est un lieu d'éternelle frustration. Et les êtres démoniaques sont des êtres qui sont des êtres grevés de l'intérieur par le mal. C'est-à-dire, le premier mouvement est un mouvement de bien, c'est leur nature, et pourtant, tout de suite après, il n'y a aucune capacité à la mettre en acte. C'est tout de suite le mal qui s'exprime. Donc ces êtres angéliques, pour une part, ont fait le choix des enfers et le Seigneur ne descend pas à l'enfer, d'accord ? Et de fait, il y a possible qu'il y ait des hommes ou des femmes qui sont en enfer. L'Église n'a jamais fait de procès de damnation, à la différence des procès de canonisation. Mais tout ce que le Seigneur nous dit sur le fait de l'enfer est réel, puisqu'il n'est pas sadique, il ne nous a pas fait peur pour simplement dire « Tout va bien après, ne vous inquiétez pas, c'était une blague ». C'est un vrai avertissement salvifique où le Seigneur veut sauver et éviter cette mort éternelle qui ne tue pas simplement le corps, mais l'âme. Et donc, voilà. Et puis la révélation de Fatima, dont on va fêter le centenaire cette année, hein, et dont le pape François a confié son pontificat, nous rappelle cette réalité. La Vierge a fait visiter l'enfer à 3 enfants. Voilà. Donc ça, c'est l'enfer. Le Christ ne descend pas à l'enfer, parce qu'il n'y a rien à sauver. C'est pas qu'il est dur, c'est qu'eux-mêmes ont fait le choix de ne pas accueillir le Sauveur. Donc il n'y a pas à sauver aux enfers. à l'enfer, et donc l'enfer n'est pas une partie de l'Église. Quand nous allons parler de l'Église, on va y revenir, il y a l'Église pérégrinante, l'Église souffrante, et l'Église glorieuse ou triomphante, c'est donc le ciel, la triomphante, c'est la souffrante, le purgatoire, et pérégrinante, c'est sur terre. En enfer, on est exclu de la grâce de Dieu, donc on n'est pas dans l'Église. On est, au sens extrêmement fort, excommunié. Christ donc ne va pas là, mais il va aux enfers. Alors qu'est-ce que c'est que les enfers? Les enfers, on peut aussi les appeler les limbes. C'est dans l'Église, ça veut dire tous les justes qui ont précédé le Christ, qui ont cheminé par la foi mosaïque, la révélation faite à Israël, ont cheminé dans le vrai Dieu, vers la connaissance du Christ, mais parce que le Christ n'avait pas ouvert les portes par le salut obtenu à la croix, aucun homme, nous dit l'Écriture dans le Nouveau Testament, les hommes sont tous privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le péché, les hommes sont tous privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que même les morts avant le Christ ne pouvaient pas rentrer dans l'adoption trinitaire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un lieu intermédiaire où ils ne pouvaient pas rentrer dans la gloire de Dieu. Et c'est ça les ténèbres, les enfers. Et donc le Christ va chercher les justes qui ont vécu conformément à la révélation et donc qui ont vécu une foi vétérotestamentaire, une foi de l'Ancien Testament qui était en vue de la foi christique, en vue de la foi chrétienne. C'est une foi de préparation et donc elle est orientée vers ce salut en Christ. Et donc le Seigneur va les chercher et vous avez l'icône du Christ qui va chercher Adam et Ève et qui les relève des enfers. Ce qui est différent de l'enfer. Vous voyez la nuance? En français, ça a le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Et donc, vous avez dans l'histoire, dans le salut du Christ, un avant et un après. Tous les justes morts avant le Christ, de fait, sont sauvés en vue de la foi au Christ. Et tous les justes, à partir du Christ, de l'événement de la mort et la résurrection, sont sauvés à cause du Christ. Les deux à cause, mais là, efficacement. Nous n'irons pas aux enfers. Soit nous allons au ciel, au purgatoire ou à l'enfer, mais pas aux enfers. Les justes ont eu ce temps. Alors il est mystérieux ce temps chronologiquement. Ça ne marche pas comme nous, comme on est dans le régime de l'éternité. Mais toujours est-il, il y avait un temps préparatoire. Voilà, ou leur foi. Et donc ils ont la possibilité de choisir le Seigneur, tout en ayant eu une foi préparatrice. Et le Seigneur vient les délivrer de cette attente. Voyez. C'est beau parce que le Seigneur, quelque part, il descend aux enfers chercher tous les hommes de conscience droite qui ont vécu selon leur conscience, éclairés par l'Esprit, et voir ceux qui ont même reçu la révélation vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, qui les a préparés à l'avènement du Messie. Il vient les chercher. Donc le Seigneur, aujourd'hui, il va au fondement de la foi d'Israël, au fondement de la révélation, et il vient chercher tout le monde qui était en attente. Donc nous portons quelque part dans notre prière les défunts du temps ancien qui sont délivrés des enfers. Mais aussi d'une certaine manière, nous portons, et ce n'est pas les enfers, mais nous portons dans notre prière comme nous portons les morts, ceux qui sont précédés le Christ et qui sont morts, nous portons aussi dans nos prières nos morts, nos défunts. Et là nous pouvons parler du purgatoire. Nous prions aussi de manière particulière pour que tous ces hommes et ces femmes puissent aller à l'avènement de la résurrection et être libérés dans le Christ de manière totale. Vous savez qu'au purgatoire, on ne peut pas être libéré par soi-même. Vous savez qu'ici-bas, nous avons des actes de charité avec la grâce de Dieu que nous pouvons faire, mais qu'au purgatoire, nous ne pouvons plus mériter. Nous sommes véritablement en mode passif. Le temps est écoulé, le temps qui est créé par Dieu est écoulé, et seule l'aide de Dieu et l'aide de la communion des saints de ceux de l'Église pérégrinante en pèlerinage sur terre pour l'intercession, peut sanctifier, purifier l'âme au purgatoire. Alors il faut d'abord se dire quelque chose sur le purgatoire, parce que là aussi, on ne dit pas que c'est la barbecue party, mais on a très peur du purgatoire. Alors il faut être vrai et dire d'abord, c'est un lieu d'espérance. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'espérance. C'est un samedi d'espérance. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont accueilli le Seigneur. On va y venir sur le jugement particulier, le jugement final. Mais c'est des gens qui ont accueilli le Seigneur puisqu'ils ont fait le choix du Seigneur au moment de leur mort. Donc en fait, le Seigneur les a accueillis. Donc ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas complètement purifiés. Et parce qu'ils ne sont pas complètement purifiés, et qu'on ne peut rentrer dans le saint, dans la Trinité, qu'en étant saint. Soyez saints, car je suis saint. C'est le Lévitique. Et c'est rappelé dans la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 16. Eh bien, on ne peut rentrer dans cette plénitude de sainteté qu'en étant soi-même sanctifié par le saint. Et le purgatoire, quelque part, qui nous montre déjà, les gens sont heureux d'être au purgatoire, nous disent les mystiques. Si vous voulez creuser cela, lisez Catherine de Gênes, qui a eu ses apparitions. Lisez aussi Sœur Faustine. Voilà, vous verrez, c'est reconnu par l'Église, vous verrez ce que dit justement cette grande fournaise qui purifie, ce feu purificateur dont parle l'Écriture, c'est le purgatoire. Les hommes, les âmes elles-mêmes acceptent de rentrer au purgatoire pour être sauvées. Elles sont heureuses dans l'espérance d'accueillir le salut. Mais il y a de fait après une douleur due à la purification intense qui n'a rien à voir avec la douleur ici-bas, qui est une purification selon les péchés de la personne. Voilà. Dans un temps donné, qui est un temps qui est différent du temps ici-bas, et elles ont besoin de nos prières. Et donc nous prions à la messe, nous faisons dire des messes, parce que c'est la plus grande prière purificatrice qui leur est appliquée, aux vivants et aux défunts. Mais quelque part, en ce vendredi saint, en ce samedi saint, nous prions pour les morts aussi. Pas que pour ceux qui sont dans les ténèbres, aussi ceux qui sont au purgatoire. Voilà. Et Marie, au purgatoire, est mère de consolation. À venir. Marie, au purgatoire, est la mère qui console, qui aide les âmes. Voilà. Rappelons-nous cela, ce qui va se passer à la résurrection du Christ, à la veillée pascale, c'est le triomphe de Dieu sur le mal, sur les dernières conséquences du mal. Vous savez que le mal est entré dans le monde par le péché de l'homme et que l'ultime conséquence du mal, c'est la mort éternelle, la séparation de Dieu et aussi la mort physique parce que le péché est entré dans le monde, l'homme meurt. À la résurrection, le Seigneur va chercher les gens qui sont dans les enfers, mais aussi il vainc la mort, il vainc physiquement les dernières conséquences du péché. Donc en voyant le Christ ressuscité, nous contemplons celui qui a vaincu les dernières conséquences du péché. Et donc c'est une vraie espérance de contempler le Seigneur, parce que nous voyons en lui notre prototype. Nous voyons celui que nous allons devenir. Un jour, nous serons des ressuscités. Au ciel, nous sommes séparés, corps et âme. Mais un jour, dans la résurrection des corps, nous serons comme le Christ. Et le saint Kolb, Maximilien Kolb, disait « Le Christ, notre amour, Marie, notre espérance. » C'est-à-dire que Marie est déjà comme le Christ. Elle est corps et âme au ciel. C'est la mère de la consolation, c'est l'espérance. Et ici-bas, nous la prions parce que Marie a tenu ce passage dans la foi pure. Et une fois qu'il est ressuscité, elle accompagne toute l'Église dans ce passage vers la résurrection. C'est sa maternité divine. Alors, commençons par des choses fortes. D'abord, méditons sur le fait de la place de Marie aujourd'hui. Marie n'a pas chancelé dans la foi. On nous dit qu'elle a tenu debout à la croix. Les papes nous enseignent que Marie a fait un pèlerinage de foi. Si le Christ n'a pas la foi parce qu'il est Dieu fait homme, Marie est une créature, elle a la foi. Une foi donnée par le Seigneur, purifiée, qui n'est pas contaminée par le péché, mais elle a dû poser des actes de foi, d'espérance et de charité durant toute sa vie. Et les promesses que le Seigneur lui a dites se sont réalisées, mais peut-être pas comme elle le pensait dans son intelligence humaine. Donc il y a une purification de la pensée de Marie sur le plan de Dieu. Elle a fait son pèlerinage. À la croix, elle médite les promesses de Dieu communiquées par l'ange Gabriel. Il se rappelait fils de Dieu. Mais on ne voit rien à la croix. Et c'est là où on voit que la foi de Marie est grande, c'est qu'elle tient debout dans la foi sur la parole, sans aucun appui. Sans aucun appui. Nous, généralement, nous avons besoin, et c'est normal, de tenir dans la foi et d'avoir l'appui de frères et sœurs, de signes. Marie n'a plus de signes, si ce n'est la croix. Et c'est un contre-signe, en apparence. C'est un échec. Mais elle tient sûre que le Seigneur va réaliser ses promesses. Elle ne sait pas comment. Voyez, la foi, elle est dans la plus grande obscurité que les croyants peuvent avoir. Voyez, donc vous pouvez très bien dire, oui, mais la Vierge Marie, elle avait toutes ses grâces, et puis finalement, elle a plus souffert que nous, parce qu'elle était plus unie au Christ, et sa compréhension du mystère était plus obscure que nous. C'était la grande nuit pour Marie. Mais elle tient dans la foi. Elle tient dans la foi. Elle croit que les promesses vont se réaliser. Elle ne sait pas encore comment. Et donc, elle représente l'espérance de l'Église du jour de la résurrection. Elle croit, elle a entendu les paroles que le Seigneur disait, il faudrait que le Fils de l'homme meure et 3 jours après ressuscite. Elle connaît tout ça. Elle les porte dans son cœur, elle médite. Elle est comme un tabernacle de la parole. Elle médite tout ça. Et là, l'Écriture l'aide. Donc nous pouvons, ce jour-ci, méditer l'Écriture sur la résurrection. Marie, aide-moi à croire, toi qui n'as pas chancelé, mais qui as cru dans la foi pure, sans signe, dans une forme d'absurdité, et pourtant c'était vrai. Donc Marie nous aide, et elle représente, elle est le prototype de l'Église qui espère, qui attend. Et c'est pour ça qu'elle reçoit sa maternité divine à la croix. Il y a quelque chose des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité qui sont données par le baptême, mais qui passent aussi par Marie. Parce que Marie est modèle d'espérance, de charité et de foi. Elle est la mère de Dieu, elle est devenue notre mère dans la vie spirituelle. Elle nous aide. Alors, nous pouvons méditer le fait que Marie entende ce qu'elle a entendu à l'ange Gabriel à l'Annonciation, elle l'entende maintenant à la croix. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors nous pouvons prendre ces éléments pour nous-mêmes. Dans ma vie, j'ai fait un chemin de foi. Il y a eu des ratés, des réussites, des péchés, des joies. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Avec Marie, rien n'est impossible à Dieu. Marie relie sa vie avec le Seigneur et à la foi. Elle fait cette relecture. Je nous invite à faire cette relecture aujourd'hui pour nous préparer à ce que le Seigneur va donner. Rien n'est impossible à Dieu. Passons maintenant, prenons le temps de faire ça, voilà. Prenons le temps d'espérer au-delà même de ce qu'on peut espérer. Voilà. C'est-à-dire, Dieu veut donner plus que l'on ne croit dans la résurrection. Dieu veut donner plus dans la veillée pascale que l'on ne croit. La Vierge Marie, ce n'est pas dit dans l'Écriture, mais va faire l'expérience de la résurrection, mais c'est rapporté par la tradition, et quelqu'un qui a gardé cet élément, c'est saint Ignace. Dans les exercices de saint Ignace, le Christ apparaît en premier à sa mère. C'est très intéressant. Ce n'est pas rapporté dans l'Écriture. Oui, il y a un silence sur Marie. Le pape Jean-Paul II disait souvent, mais voilà, on sait peu de choses. On aimerait en savoir plus. Mais saint Ignace nous rapporte que le Seigneur est apparu d'abord à sa mère. Il n'aurait pu, quand on y réfléchit, C'est peut-être normal, c'est elle qui l'aimait le plus et qui a le plus souffert pour lui. On imagine la joie de sa mère à accueillir son fils ressuscité. On imagine son espérance comblée, sa charité, son émotion, et en même temps, humainement, sa surprise de voir ce qu'est le Christ ressuscité, glorifié. Alors, rentrons dedans dans la foi. Et rentrons dans un élément important. On a médité Saint Jean, on peut encore méditer Saint Jean. Saint Jean parle de voir Dieu. Le disciple bien-aimé, au tombeau, il vit et il crut. Mais on pourrait nous dire, mais il n'a rien vu. Parce que de fait, il a vu le linceul rouler, mais il n'a rien vu. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la deuxième partie du verset. Il vit et il crut que d'après l'Écriture, il fallait, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie, elle a été éduquée à ça, et Saint Jean, qui s'est confié à Marie, est rentré dans quelque chose de cet ordre-là, il a appris à voir dans la foi. Nous apprenons à voir l'invisible dans la foi. La foi se nourrit de paroles, et la parole reçue dans la foi nous permet de percevoir le réel de manière plus profonde. Et Saint Jean, dans les faits du tombeau, où il y a le linceul roulé, hein, pas simplement déplié, c'est-à-dire roulé, toujours, qui devait entourer le corps et qui est affaissé. Quand ça, c'est miraculeux. Eh bien, il voit dans la foi, il sait que c'est ça. Il appréhende l'invisible, il a la foi ressuscitée. Avant de le voir, il a la foi ressuscitée. Et donc nous, il nous est invité, à travers cette relecture, ce silence, cette intercession pour les défunts, cet accompagnement avec Marie, de nous préparer à voir dans la foi celui que nous allons rencontrer à la veillée pascale. Le voir dans la foi. Et la foi saisit plus que tous les sens. Vous voyez, nos sens sont limités, mais la foi, c'est plus qu'un serrage de main. C'est une étreinte de Dieu. Et on voit dans la foi. Marie voyait dans la foi. Et d'ailleurs, Saint Thomas, qui lui a du mal à voir dans la foi et qui dira ce qui est souvent célèbre, « Moi, je crois que ce que j'ai vu. » Le Seigneur va le rencontrer, 8 jours après, il lui apparaît, et ce sera, nous fêterons cela dimanche prochain. Mais le Seigneur lui dit après, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Non pas heureux les crédules, mais heureux ceux qui savent voir dans la foi. Parce que c'est le vrai régime chrétien ici-bas. Là-haut, nous verrons Dieu, la foi ne sera plus utile, nous dit Paul. Mais ici-bas, nous pouvons appréhender le ressuscité dans la foi. Nous avons à nous y exercer. Et ce samedi saint, c'est une préparation dans la foi avec Marie pour appréhender le ressuscité. Ce qui est aussi très intéressant, enfin il y a plein de choses très intéressantes, mais c'est que dans le récit de la résurrection, le ressuscité se laisse toucher dans ses blessures de ressuscité. Marie-Madeleine, qui n'est pas encore sous le régime de la foi, veut le garder en mode terrestre. Elle est surprise du ressuscité, elle ne le reconnaît pas, elle croit que c'est jardinier, et elle veut le saisir et le garder. Mais elle a été touchée parce que le ressuscité l'a sondé. Vous voyez, c'est pas, elle ne l'avait pas reconnu, mais elle a senti qu'il disait vrai, puisqu'il a dit Marie. Et en disant Marie, il l'a dit de la seule manière dont le ressuscité le dit. Et ça, vous voyez, nous pouvons faire l'expérience pendant Pâques, Jésus nous dire, Paul, Pierre, Gustave, Brigitte, de la seule manière dont Jésus est capable de nous le dire. Et ça, vous savez que c'est le ressuscité. Donc elle a senti ça. Elle a été touchée, elle sait que c'est le ressuscité. Mais elle n'est pas encore sous le régime de la foi, vraiment, parce qu'elle n'arrive pas à voir l'invisible dans la foi, à l'appréhender, ce qui fait qu'elle veut le garder en mode terrestre. Et Jésus lui dit quelque chose de très fort, « Ne me touche pas. Ne me touche pas. » Ça veut dire, il va falloir que tu passes une étape, que tu vives de foi, que tu vives dans la foi. Voyez. Et ça va se faire. Et quelque part dans le témoignage, puisque c'est l'apôtre des apôtres, hein, mesdames, on dit que les dames n'ont pas souvent de place dans l'évangile, c'est ce que j'entends parfois, mais c'est elle, bon la Vierge Marie c'est grand, mais c'est la première apôtre. C'est la peau des apôtres, Marie-Madeleine. C'est elle qui va annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité. Et on suppose que sa foi, en courant ou haletant, ou en y allant, elle a fortifié sa foi, elle dit ce qu'elle croit. Vous voyez? Elle commence en proclamant à voir dans la foi, à vivre de foi, de la présence du ressuscité. Et plus elle proclame, plus sa foi s'affermit. Vous voyez? Il y a un lien entre conviction et proclamation. Il y a un lien entre conviction et évangélisation. Et elle le fait. Voilà. Et du fait, Thomas, les autres n'ont pas fait cette expérience. Ils courent, ils vont voir. Un qui a faim, Saint Jean, je disais, éduqué par Marie, certainement, voit dans la foi, d'après l'Écriture. Il sent les choses. Les autres vont voir. Et ils en vont être tous les témoins oculaires. Et Thomas va voir, lui, quand il aura touché les plaies. Vous voyez, le Seigneur ressuscité se donne à toucher par ses plaies. C'est très intéressant, voyez. En gros, les plaies nous permettent de voir. Pour le dire autrement, si Jésus, tu donnes tes plaies au ressuscité, il les touche par ses plaies, il va faire tomber ta cécité, ta surdité, ton mutisme. Ce qu'il faisait dans la vie, en tant qu'ici-bas, dans l'Évangile, il va le faire de manière spirituelle pour tout croyant maintenant. Et du coup, on appréhende le ressuscité dans la foi. Et on va changer de régime. Ce qui est très beau, c'est qu'on va changer de régime. Pendant la crucifixion, pendant la passion. Aujourd'hui, quelque part, c'est un arrêt. On s'arrête. Et on va penser à un autre mode de fonctionnement à partir de ce soir. Jusqu'à présent, le Seigneur, on voulait le suivre. Et on était aidés. Le Seigneur portait tout. Il nous disait, veux-tu me suivre? Veux-tu porter un peu ce que j'ai porté pour toi? Moi qui t'ai aimé. Et on le suivait. Maintenant, le Seigneur nous demande d'être avec Marie dans le silence et de contempler toute notre histoire croyante, comme Marie, qui contemple toute la nativité, tout ce qu'elle a vécu, et de dire, ben voilà, comment ça va se réaliser pour toi, Marie, comment ça va se réaliser pour moi, cette expérience. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est pas qu'on va suivre Jésus, c'est que Jésus va venir à nous sans arrêt. Ah oui. Jésus va précéder sans arrêt l'avenue des disciples. Les disciples sont réunis, il arrive, il est là au milieu d'eux. Il nous précède en Galilée. Il va précéder sur le chemin d'Emmaüs. Ils vont y aller, il les précédera déjà. Il dira, je suis celui qui vient. Et l'Église dira sans arrêt après, viens Seigneur Jésus. C'est la fin de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience du ressuscité, ce n'est pas nous qui allons voir le ressuscité. C'est lui qui vient à nous. Et donc on va être surpris. Et donc dans cette expérience de foi, si on s'y habitue, on va repérer la présence de Jésus venir à nous. Là, il y a quelque chose où il vient à nous. La foi, c'est quoi? C'est pas un contenu, c'est un contenu, c'est l'intelligence de la foi, mais c'est aussi faire l'expérience de Jésus vivant qui vient à moi. Voilà, je le dis souvent, mais il faut passer d'un christianisme culturel à un christianisme expérimental. Faire l'expérience qu'il est vivant et qu'il vient à moi. Et si nous faisons cette expérience, rien n'est impossible à Dieu, la peur va tomber. Les apôtres ont peur. Le maître est mort. On va tous mourir, on est cachés. Et voilà qu'une folle nous dit qu'il est ressuscité et on va vérifier, mais on a un peu peur. Ils vont faire cette expérience parce qu'il vient à eux. Tout va sauter, ils n'auront plus peur. Voyez, nous serons capables de nous afficher plus croyants et nous allons le rencontrer. Nous parlerons de lui non pas simplement par désir personnel, mais parce que nous allons faire l'expérience de sa rencontre. Et quand nous parlerons de lui, c'est lui qui parlera à travers nous. Nous serons surpris de parler plus fort que nous-mêmes. Et d'autres feront la rencontre pendant que nous parlons, parce qu'il vient. Alors les venues du Seigneur ne sont pas forcément extraordinaires. Peut-être si, peut-être non. Mais il faut demander, Seigneur, viens. Seigneur, viens, je veux te rencontrer. Je t'attends, je t'espère. Comme disent les gens du Sud, je te languis. Je te languis de venir. Voilà. Comme Marie. Donc on est tourné vers ça. On est tourné vers ça. Le mystère que nous allons vivre, je ne suis pas liturgiste, le Père Dubourg aurait pu mieux parler que moi, mais il est tout donné maintenant mais il va se diffracter sur 50 jours. Voilà. Alors vous savez, ce soir nous est donné le terme et nous est donné un renouveau. On rentre dans le dimanche ce soir de Pâques. Le dimanche, c'est pas 7 jours passés, on recommence. C'est le 8e jour. C'est le 7 plus 1. C'est le jour de Dieu. C'est le dies domini. C'est le jour de la résurrection. Pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte, on va vivre cette expérience-là. C'est quoi? C'est 7 fois 7, 49, plus 1. Parce que c'est le terme. Vous voyez? Il y a une cohérence là-dedans. Et en fait, pendant ces trois fêtes, elles sont condensées. Il y a quelque chose qui est donné à la résurrection de manière forte, mais qui va se diffracter jusqu'à la Pentecôte. La fête que nous allons célébrer ce soir, c'est la fête de la foi. La fête que nous allons célébrer à l'Ascension, c'est la fête de l'espérance. La fête que nous allons célébrer à la Pentecôte, c'est la charité. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le renouveau des vœux baptismales, de la vie baptismale. Nous vivons de foi théologale, de charité théologale et d'espérance théologale. Ce soir nous est donné la foi, de manière très forte. Et Paul le dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Il nous est donné un renouveau de notre foi théologale, qui va s'orienter vers le ciel, l'ascension, renouveau de l'espérance théologale, et après le don de la charité, le Saint-Esprit, la charité théologale. Et en fait, c'est le renouveau total de la vie du baptisé. Et ça commence ce soir en désir. Et de fait, ce soir, c'est fait. Mais ça se déploie dans le temps. Et pendant 50 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Et de manière très dense, pendant une semaine, c'est pas lundi de Pâques, on pourrait dire, c'est dimanche de Pâques. Lendemain, c'est dimanche. Après, c'est dimanche. Pendant 8 jours, c'est dimanche. Pendant 8 jours, c'est Pâques. Parce qu'en fait, il faut du temps pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, imaginez un aveugle qui a des croûtes sur les yeux, ou je ne sais pas, de l'argile. Ça tombe et il voit la lumière. Il voit flou au départ, il ne comprend pas trop. Petit à petit, il commence à discerner les formes. Il entend, voilà, des choses comme ça. Cette expérience-là de voir l'invisible, de voir le ressuscité venir à nous, l'Église nous aide à l'appréhender progressivement dans la liturgie par plusieurs jours. Voyez. Donc en gros, un mot clé, c'est faire l'expérience de la présence du ressuscité. C'est ce qu'on est invité à faire. Voilà. Pendant ces 8 jours de Pâques, et qui vont continuer après. Voyez. Et après seulement la Pentecôte, nous partirons en mission. Ce qui nous est demandé par le Seigneur, c'est de véritablement faire son expérience. Voilà. Nous avons tous à demander cela. Voyez, vous voyez des gens ce soir, vous leur dites, je prie pour vous faites l'expérience du ressuscité. Voilà. Ce n'est pas un énième Pâques, c'est tu fais l'expérience du ressuscité, ça va changer ta vie. Voilà. Mais je ne la fais pas ce soir, t'inquiète pas, t'as 8 jours, et puis ça va pouvoir continuer. Mais il faut demander. Il y a quelque chose de fort là. Alors, c'est quoi un corps glorieux? C'est quoi la résurrection? La résurrection du Christ, je suis plus technique, c'est pour ceux qui aiment être un peu plus technique. La résurrection du Christ n'est pas une réanimation, n'est pas une réincarnation. Hein, on dit qu'il y a un état clinique, il faut 2-3 heures, je ne sais pas combien, et puis après on meurt, et puis si ça ne se réanime pas, c'est mort. Donc le Seigneur est mort réellement, ce n'était pas en état de réanimation, il n'y avait pas un branchement secret dans le tombeau, on l'a maintenu comme ça et puis oh, il est sorti du coma. Non, non, il était vraiment mort mais il n'était pas décomposé. D'accord. Donc ça c'est déjà miraculeux, c'est déjà miraculeux. Mais ce n'est pas la réanimation, ce n'est pas la réincarnation. Hein, statistiquement on dit que la moitié des chrétiens ne croient pas en la résurrection. Là, donc c'est très grave parce que c'est le cœur de notre foi, hein. Donc, ce n'est pas la réincarnation du genre « j'ai une vie, puis j'ai un joker, ça s'est mal passé, j'ai une deuxième vie. C'est encore mal passé, mais je voudrais faire mieux la prochaine, j'ai encore un joker. Puis on ne sait jamais, j'ai peut-être un stock de jokers. Voilà. » Déjà, ça, c'est la version très occidentale de la réincarnation. La version orientale, ils ne sont pas très contents de se réincarner, les gens. Ils aimeraient bien le purifier tout de suite. Mais bon, ce n'est pas ça non plus, notre conception de la foi. La conception, c'est qu'on a une seule vie, qui a un démarrage, et qui ne s'arrête pas, et qu'on est fait corps et âme, et qu'on est fait pour être un. À la différence des anges, on est fait âme et corps. Et qu'au moment de la mort, le principe surnaturel qui anime le corps, c'est le terme de l'âme, mais qui résiste à l'altération, est avec Dieu. Et Dieu, par grâce de suppléance, nous maintient ainsi, parce que pour nous, c'est un scandale de vivre sans le corps. Alors il nous maintient. Les bienheureux sont sans corps. C'est bien déjà, ils sont heureux, mais il manque quelque chose de réel, parce que l'être humain ne devrait pas être comme ça. Et nous attendons la résurrection des corps. Et la Vierge Marie a vécu cette expérience-là. Alors qu'on dit tout de suite, c'est dans la grande tradition de l'Église, la Vierge Marie a fait une expérience de la mort sans corruption, de résurrection et de montée au ciel. C'est le pape Jean-Paul II qui l'enseigne dans ses catéchèses. Et c'est un des points les plus traditionnels de la foi. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la catéchèse. Donc cette expérience, Marie a déjà le corps glorieux, le Christ aussi. Voyez. Et nous, nous l'attendons. Donc c'est quoi un corps glorieux? C'est pas la réincarnation, c'est pas la réanimation. Ça a des propriétés autres qu'un corps simplement humain. C'est bien humain, mais c'est quoi? Alors vous me dites, oui, mais alors moi, si je ressuscite, comme ou alors mon oncle, on a balancé les poussières dans l'Atlantique, je veux pas qu'il ressuscite en poussière avec un peu des poissons partout et des coquillages. Je veux un truc vrai, quoi. Alors rassurez-vous, Dieu qui crée à partir de rien est capable de recréer. C'est pas un problème. D'accord? Il faut être en paix là-dessus. Mais un corps glorieux, c'est vraiment un corps, puisque le Christ mange à la résurrection du poisson. Il est touché dans ses plaies. Et en même temps, c'est autre chose. C'est quoi? Je vais vous donner des propriétés du corps glorieux qu'on ne dit pas souvent. Un corps glorieux, c'est un corps qui est impassible. Alors non pas qui n'est pas sans sentiment. Quand on parle de l'impassibilité d'un corps glorieux, c'est-à-dire que les corps seront immortels et immunisés de tout mal. Fini les cancers. Fini les maladies. Fini les déformités. Vous voyez, je me souviens d'un témoignage d'un petit Africain qui perdait sa main, ou ses yeux, je ne sais plus, et qui disait de toute façon, le Christ va me les redonner. Beau, hein? Vous voyez, mais on fait un peu ça ce soir. La résurrection des corps, la résurrection du Christ. Notre espérance. Donc, immunisé de tout mal, on ne pourra plus souffrir. Et pourtant, on gardera une nature sensible parce que nous communiquons avec nos sens. Nous ne sommes pas des anges. Et notre corps servira pour le plaisir de Dieu et la charité. Vous voyez, nous l'avons des fois abîmé ou même désorienté par la sensualité ou je ne sais quoi, ou la meurtrissure, ou alors on a été torturé. La sensibilité sera profondément orientée à la charité et à la louange de Dieu. C'est extraordinaire. C'est comme là si on avait un instrument qui fait zéro fausse note. Voilà, c'est ça ce qu'on aura dans un corps glorieux. Nous aurons aussi la clarté du corps glorieux. Qu'est-ce que c'est? Va se voir une lumière de gloire proportionnelle à ce que Dieu voudra nous donner et nos mérites. Donc on n'aura pas tous la même lumière de gloire. Il y aura des petits saints qu'on n'aura pas vus de notre vie, et bien ça sera des véritables halogènes. Une clarté, mais ce n'est pas aveuglante, mais c'est une lumière qui se verra sur le corps. Une lumière de sainteté, comme si, en fait, il va se faire un peu, je m'invente, mais je pense que c'est un peu similaire. Cette histoire de transfiguration, la splendeur du Christ intérieur se voyait sur son corps et ses vêtements. Vous voyez, ça rejaillit de la gloire. Et il y a ça dans le Christ ressuscité. Vous voyez, c'est tel qu'il devrait être. On disait ici-bas, il s'est comprimé. Mais dans la résurrection, ça se manifeste. Et le prémisse de la résurrection, ça avait été la petite étincelle, c'était la transfiguration. Et nous aurons des corps glorieux. Voilà. Nous aurons une agilité, non pas qu'on sera champion du monde de gymnase, de gymnastique, mais nous serons libérés de l'espace-temps. Il y a quelque chose de la libération de l'espace-temps. Nous pourrons nous déplacer partout en un instant sans le moindre effort. Parce que nous serons dans le temps de Dieu, dans l'espace de Dieu, l'éternité, ce qui marche autrement. Voyez. Et le Christ apparaît, lui qui a un corps, apparaît à plein, en même temps. Il franchit les portes, il apparaît au milieu alors que la pièce est close. C'est les propriétés du corps glorieux. Voyez. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose. Voyez, c'est mystérieux. Ben là, on a la pleine réalisation de l'homme. La sensibilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la subtilité? Voilà ce que nous dit, c'est un peu plus technique. Bien que composés de chair et d'os, les corps glorieux participeront à certaines qualités de l'esprit au point de pouvoir, par la puissance de Dieu, abandonner les dernières servitudes de la matière. Ainsi voit-on Jésus ressuscité, traverser la paroi du sépulcre scellé et apparaître dans une pièce toute porte close. Voilà. Donc il y a des choses, des propriétés matérielles qui sont un petit peu transformées. Voilà. Bon, vous voyez, donc en fait, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est notre espérance et le Christ le vit à la résurrection. Voilà. Nous contemplons le devenir humain dans la résurrection. Et Marie, notre espérance, quelque part, par le chemin qu'elle a vécu depuis l'Assomption, elle vit ça. Donc avant, elle nous accompagne pour vivre dans la foi pure, dans l'obscurité que les promesses vont se réaliser, et nous avons besoin de son aide, et en même temps, nous la contemplons, l'Église la contemple comme l'espérance, en disant, mais voilà ce qu'on va devenir, nous aussi. C'est grand. Donc, la résurrection, c'est véritablement une joie pour nous. Alors, parlons un peu de la joie. Et c'est encore un point important. Il faut préparer sa joie. Il faut choisir la joie. Et il faut choisir une joie plus grande que soi. Alors, il faut préparer sa joie. Vous voyez, un jeune qui a bien passé ses examens, au moment de la note, du résultat, il pense qu'il a bien, il se prépare, il est heureux. Vous voyez, quelqu'un qui a fait la rencontre d'un ami, ça fait longtemps, il se prépare, il met le couvert, il fait les choses bien. Bon. Et là, on va rencontrer le ressuscité, qui va nous dire à chacun une parole, comme à Marie-Madeleine, dans le cœur, visiblement ou invisiblement. On va l'entendre ou pas, mais il va nous dire quelque chose. Soit dit en passant, je me rappelle une catéchumène lors d'un rite préparatoire qui m'a dit un jour, ça m'a beaucoup marqué, « Mon père, quand vous avez dit mon nom, j'ai cru que c'était Jésus qui me parlait. » Et donc, on ne s'en est pas, nous les prêtres, aperçus, mais le ressuscité est en train de lui parler. Donc voilà, donc on se prépare à ça, à cette rencontre, avec le ressuscité, et donc on prépare sa joie. Le samedi saint, c'est ça va se réaliser, je ne sais pas comment, je vais rencontrer le ressuscité, je m'y prépare. Voilà, il y a tout un désir, voyez. On se prépare à aller à ce renouveau baptismal, on se prépare à le rencontrer. La deuxième chose, c'est on choisit la joie. Alors choisir la joie, c'est pas moi je le sens, je le sens pas. Donc j'y vais, mais j'y vais un peu par devoir. Non. La joie, c'est un choix. On ne le produit pas, la joie, c'est un don de Dieu. Mais on se dispose en choisissant dans la volonté et non dans le sentiment. C'est une décision, voyez. Il faut décider la joie. Il faut décider louer. Il faut décider vouloir rencontrer le ressuscité. Il ne faut pas être passif, il faut s'investir. Voyez, vous avez ce qui se passe au niveau surnaturel, se passe un peu au niveau naturel quand nous franchissons une montagne ou quand nous travaillons quelque chose, un objet, n'importe quoi, du bricolage. Ou par exemple, je ne sais pas pour les dames, je n'ai pas d'autres exemples. Mais par exemple, vous travaillez quelque chose de bricolage, ça ne marche pas deux, trois fois, vous y arrivez, ou finalement vous y arrivez, vous êtes content de l'effort fourni. Vous avez choisi, et au final, il y a une joie qui résulte d'un choix qui a été posé durablement dans un effort. De la même manière, vous montez une montagne. C'est pas évident, mais quand vous voyez le panoramique, il y a une paix, il y a une joie qui est donnée. Vous avez choisi de grimper. Nous nous préparons et nous choisissons d'entrer dans la joie. Ça demande une volonté d'âme, une détermination et un rejet une décision de relativiser tout ce qui est contrainte. Est-ce que les poids familiaux que tu portes, tes difficultés physiques, ton travail, tes soucis, ça va t'accaparer le jour de Pâques? Est-ce que tu fais le choix volontaire de rejeter et de rencontrer le ressuscité en priorité et d'en faire ton centre? Ça, c'est une décision. Vous voyez, le Seigneur peut arriver par la petite porte et vous pouvez lui dire, c'est bien Seigneur, mais enfin, j'ai un gros problème. Je sais que tu es ressuscité, tu me promets le bonheur, vois-tu, j'ai un gros problème, quoi. Non, on n'a pas choisi le ressuscité, là. Vous voyez. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est rentrer dans une voie qui est plus grande que nous. C'est quoi une joie qui est plus grande que nous? C'est pas simplement nos joies humaines. c'est la joie de Dieu. C'est la joie de ce que Dieu veut pour nous. C'est sa joie de se donner à nous. C'est plus grand que nous, voyez. Tu peux louer dans les larmes. Tu peux rendre grâce dans les larmes. Ça, c'est des cas extrêmes. Mais tu peux te réjouir de quelque chose de plus grand que toi. Tu peux te réjouir de la joie de l'Église. Tu peux te réjouir de la joie de ceux qui découvrent le Christ, les catéchumènes, les futurs confirmés. Tu peux te réjouir de ce que fait le Seigneur partout. Et tu peux te réjouir de, dans la foi, de manière plus grande que simplement humaine. Il faut dilater son cœur à Pâques. Et autant nous apprenons à l'accueillir dans la présence, autant il faut dilater son cœur. Et la louange, nous aurons une louange demain matin, et de ce soir, on va louer énormément. Là, c'est pour dilater son cœur, voyez. En gros, un maître mot, ça s'appelle le décentrement. Et un des modèles, c'est la Vierge Marie, réjouis-toi, comblée de grâce. Et un autre modèle, c'est Jean-Baptiste. Lui, il faut qu'il grandisse, c'est que moi, je diminue, ma joie est complète. C'est que mon petit moi est diminué, je rentre dans le Seigneur. Voyez ? Et on pourra dire, après, c'est plus moi qui vis, Galate devint, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez ? Et ça, c'est vraiment important. Le Seigneur nous dit, vis en moi ce soir, vis en moi, vis dans ma joie. Choisis ma joie, choisis-moi. Voilà. Bonne préparation. Amen.